Bonjour, merci de nous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour ce nouvel épisode des carnets hebdomadaires de Comaguerre consacrés principalement à l'actualité internationale. Encore que de plus en plus en préparant ces émissions, je me rends compte de l'interférence permanente entre l'actualité internationale et l'actualité nationale, à telle enseigne que, bien sûr, vous avez entendu parler des Gilets jaunes, mais je peux vous dire que la presse étrangère en est remplie comme un signe supplémentaire s'ajoutant à la crise générale des pays dominant de l'Union européenne. C'est-à-dire, vous savez, difficulté de la majorité en Allemagne, le gouvernement italien aux prises avec une commission européenne qui ne veut pas le laisser faire ce qu'il veut. Et donc les Gilets jaunes s'ajoutent à ce panorama d'une Europe en difficulté, sans oublier bien entendu le Brexit, puisque... là aussi, alors on est face à des attentes extrêmement importantes. Alors je n'ai pas lu, et peu de gens, je pense, l'ont fait, le document qui est donc approuvé par le Conseil de l'Union européenne, donc les présidents ou les chefs de gouvernement des États, et par Madame May au nom de la Grande-Bretagne, sur le document organisant la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Ce document fait plus de 500 pages, donc je ne sais pas si beaucoup de gens l'ont lu, je pense que les négociateurs l'ont lu pied à pied, en ont discuté les moindres virgules, mais dans les commentaires qu'on peut lire ici et là, il n'y a pas grand-chose sur le document lui-même, si ce n'est que on s'acheminerait vers une espèce de côte mal taillée avec une sortie de l'Union européenne tout en restant dans une zone de libre-échange qui continuerait à fonctionner comme auparavant. Mais tout ça reste extrêmement conditionnel puisque la première condition, et elle demeure centrale dans un pays, la Grande-Bretagne, qui est une monarchie parlementaire, donc c'est le Parlement britannique qui, en dernière analyse, va approuver ou ne pas approuver ce document signé par le gouvernement de Mme May. Alors, le gouvernement de Mme May, je précise, c'est que entre le moment donc, où elle a annoncé le contenu de cet accord et dans la semaine qui l'a suivi, donc il y a eu cette confirmation de l'accord par le Conseil des ministres européen, il y a eu quand même dans le cabinet de Madame May, constitué donc après le vote du Brexit, 7 démissions de ministres, y compris le ministre qui était officiellement en charge de la négociation et donc qui, lui, je pense, a lu et connaît toutes les difficultés et toutes les chausse-trappes du document de 500 pages dont j'évoque l'existence. Donc il y a effectivement une étape très importante à franchir et qui est d'autant plus incertaine que ni dans le camp conservateur ni dans le camp travailliste, il y a des opinions extrêmement tranchées et ça ne va pas du tout se passer sur la base de les uns contre les autres, les conservateurs contre les travaillistes, puisque en gros les deux partis sont divisés et qu'il s'ajoute là des considérations d'équilibre parlementaire général, une difficulté propre au gouvernement de Mme May qui ne doit sa très très petite majorité parlementaire qu'à des députés d'Irlande du Nord, des députés ultranationalistes d'Irlande du Nord, qui, alors, eux, voudraient rester dans l'Union européenne, donc sont contre le Brexit, et donc contre la position négociée par Mme May au nom du mandat donné par les électeurs britanniques. Et je voudrais m'arrêter, donc, cette incertitude sur le vote du Parlement reste très très importante, et je voudrais insister sur la question irlandaise. Parce que là, on met le doigt sur une difficulté qui n'est pas strictement liée à la négociation qui a eu lieu, mais qui est liée à la nature même de ce qu'est le Royaume-Uni. Je rappelle, alors, distinguons bien le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne et les différents morceaux. Le Royaume-Uni, c'est un ensemble qui comporte l'Irlande du Nord, ce qu'on appelle l'Ulster dans certains cas, ensuite la Grande-Bretagne qui est constituée donc par l'Écosse, l'Angleterre et le Pays de Galles, c'est ça la Grande-Bretagne, hein, l'Angleterre est donc un des des trois morceaux du royaume de la Grande-Bretagne, le morceau le plus important. Et donc, ce qui est en cause, c'est donc l'existence dans la majorité parlementaire à Londres, à Westminster, dans le gouvernement pour le soutien au gouvernement de Madame Theresa May, ces parlementaires donc de l'Ulster, de l'Irlande du Nord, qui, eux, expriment une volonté de rester dans l'Union européenne, donc ils sont en désaccord avec l'orientation de Madame May, mais ils ne voudraient surtout pas que la situation en Irlande change. Alors, qu'est-ce que c'est que ça cache ? J'explique. L'Irlande, et ça fait presque un siècle que la situation est telle que ça, ça remonte à 1921, l'Irlande a été coupée en deux par ce qu'il faut bien appeler le colonisateur britannique. Coupée en deux parce qu'à un moment donné, l'Irlande s'est révoltée. Elle a voulu donc couper court avec la Grande-Bretagne. Elle a voulu devenir républicaine et ne plus être dépendante de la monarchie britannique. Et elle s'est révoltée. Et le fruit de sa révolte a été une répression extraordinairement sauvage par le royaume de sa gracieuse majesté. Et in fine, pour sortir de cette révolte, donc qui était une révolte tout à fait caractéristique d'une décolonisation. Car il faut savoir qu'avant qu'il y ait la révolte pour sortir donc de la monarchie britannique et pour passer dans un régime républicain, qui existe toujours dans la partie de la République irlandaise aujourd'hui, capitale Dublin, il y a eu toute une période où les Irlandais se sont vécus et ont eu raison de se sentir vécus comme tels, ils se sont vécus comme des peuples colonisés. Peuples colonisés par la Grande-Bretagne. On peut dire, et ce n'est pas moi qui le dis, d'autres l'ont dit avant moi et beaucoup mieux, je pense en particulier à un certain Karl Marx qui a effectivement caractérisé le rapport entre l'Angleterre et l'Irlande comme un rapport de colonisation brutal, sauvage, comme l'Angleterre a su le faire avec la Grande-Bretagne, dans beaucoup d'autres endroits, à d'autres époques ensuite. Et c'est de ça qu'on est sorti, de cette situation, donc ce rapport d'oppression coloniale, en 1921. Mais la Grande-Bretagne a réussi, comme elle a réussi dans d'autres circonstances de décolonisation, je pense en particulier à la décolonisation de l'Inde, mais ce n'est pas le seul cas, elle a réussi à quitter, donc à abandonner son rôle de colonisateur, en laissant un facteur de désordre séculaire, puisque au fond, ça fait un siècle que ça dure, en laissant un facteur de désordre, c'est-à-dire que ceux qui, en Irlande, avaient soutenu le colonisateur. Il y a toujours, dans ce cas-là, des couches dirigeantes, une partie des classes sociales qui profitent de la colonisation et qui sont donc dans le camp du colonisateur contre les colonisés qui sont les autres classes de la population et, plus souvent, les classes inférieures. Et donc, le cadeau empoisonné qu'a laissé la Grande-Bretagne sur le sol de l'île irlandaise, c'est de découper l'Irlande en deux morceaux. Deux morceaux inégaux. Un morceau qui est la République d'Irlande, toujours existante aujourd'hui, et membre de l'Union européenne, capitale à Dublin. Et puis l'autre morceau, le petit morceau, donc dans le coin nord-est, qui s'appelle l'Ulster, donc l'Irlande du Nord, qui lui donc est un morceau du Royaume-Uni, et donc qui reconnaît la monarchie britannique et qui participe au gouvernement de Londres, qui participe à la majorité parlementaire au Parlement de Westminster. Et donc on a installé donc depuis 1921 cette coupure entre les décolonisés républicains, catholiques majoritairement, et puis les colonisateurs ou les alliés des colonisateurs, qui sont donc les protestants installés à Belfast et autour de Belfast. Tout ça a donné depuis 1921 jusqu'à une date relativement récente, puisque c'est en 1998 que ça a trouvé un terme possible, mais peut-être pas définitif, tout ça a donné lieu à une guerre, puisqu'au fond, jamais les républicains irlandais n'ont admis qu'une partie de l'île ne soit pas entre les mains de la totalité de la population irlandaise, et ils n'ont jamais admis que les anciens complices de la colonisation, donc les protestants intégristes de l'Irlande du Nord, restent au pouvoir et aient une partie de l'État, une partie de l'Irlande qui leur soit donnée par le colonisateur. Donc la Grande-Bretagne a gardé une partie colonisée de l'Irlande. Ça s'appelle l'Irlande du Nord. Ça, c'est toujours sur la carte aujourd'hui. Il y a aujourd'hui, donc, entre les deux morceaux de l'Irlande, une frontière de 480 km à peu près, qui sépare la République démocratique à majorité catholique d'Irlande de la province britannique, Irlande du Nord, à majorité protestante et donc issue des classes capitalistes de la colonisation. Ce qui s'est passé, donc, je rappelle pas tous les événements, mais une espèce de guerre civile qui a eu lieu, donc, organisée par les Irlandais républicains contre ceux du Nord et contre la province du Nord restée entre les mains des Britanniques. Ça a été extrêmement sanglant, extrêmement violent. Je rappelle que la répression britannique, bien après la guerre d'indépendance du début du XIXe siècle, et du XXe siècle, a duré jusque sous Madame Thatcher, puisque, souvenez-vous, ceux qui ont de la mémoire de ces événements-là, il y avait eu dans les prisons de Sa Majesté britannique et de Madame Thatcher des républicains et des militants, donc de républicains d'Irlande, qui ont fait une grève de la faim pour protester contre la situation politique, et Madame Thatcher les a laissés mourir. C'est-à-dire, c'est un cas assez rare, mais elle les a laissés mourir. Je rappelle le nom de Bobby Sands, qui est très connu. C'est dire que la violence du colonisateur britannique sur l'Irlande ne s'est jamais démentie. Et heureusement, j'allais dire, Madame Thatcher a quitté le pouvoir et en 1998, un accord est intervenu qui fait que les deux parties de l'Irlande, celle qui est encore colonisée, pour faire simple, et la République irlandaise donc au sud, on conclut un accord, sous la bénédiction bien entendu de Londres, qui permet la libre circulation d'un bout à l'autre de l'île irlandaise. Alors ça, c'était un événement très considérable, puisque depuis 1921 jusqu'à 1998, il y avait une véritable frontière gardée très sévèrement, j'allais même dire quelquefois sauvagement, par l'armée britannique, qui en termes de travail colonial et de maltraitance coloniale a un gros, gros passé et une très, très lourde expérience. Et donc, effectivement, le pays était coupé physiquement, brutalement, comme peut l'être aujourd'hui la Palestine entre des murs israéliens ou comme toute autre situation de ce genre-là. On en est sorti. Les Irlandais considéraient qu'on en était sorti, puisque depuis 1998, il n'y a plus de frontières et tout Irlandais peut aller et venir de l'autre côté de ce qui fut cette frontière extrêmement sanglante et qui a marqué la vie politique de tout le XXe siècle ou de la plus grande partie du XXe siècle. Ce qui va se passer avec le Brexit, et c'est autour de ça que Mme Theresa May tourne, et puis elle ne sait pas comment elle va s'en sortir, et les solutions ne sont pas évidentes, c'est que les Irlandais, dans leur très très grande majorité, et en particulier ceux de la République irlandaise du Sud, ne veulent pas entendre parler d'un rétablissement de cette frontière, c'est-à-dire d'espèce de tranchée dans la chair irlandaise et dans le passé et dans l'histoire irlandaise. Or, le problème que ça pose, c'est que la République irlandaise n'a pas demandé, puisqu'il n'y a pas eu de référendum, à sortir de l'Union européenne, et que donc la partie nord, donc l'Irlande du Nord, elle faisant partie du Royaume-Uni, est candidate à la sortie. Donc si Brexit y a, normalement, la frontière entre l'Irlande et l'Union européenne passe en plein cœur de l'Irlande. C'est-à-dire qu'elle remet à vif une plaie qui était à peine fermée. 20 ans, c'est très peu de choses dans ces histoires-là, qui sont des histoires avec des mémoires très très sanglantes, des morts, des grèves de la faim terribles, des assassinats en masse, etc. Enfin, tout ça est très très lourd à porter. Et donc, Madame May est en train, paraît-il, de trouver une astuce qui ferait que cette frontière ne serait pas rétablie. Mais alors, ça voudrait dire qu'il y a une frontière entre l'Irlande, la République irlandaise et l'Union européenne qui n'est pas respectée, puisqu'on ne rétablit pas la frontière. Et donc, on a là un élément explosif du débat sur le Brexit qui, apparemment, a été détourné pour faire croire qu'on allait trouver une solution mi-chèvre, mi-chou. Il n'y a pas de solution mi-chèvre, mi-chou. Si vous n'êtes plus dans l'Union européenne, il y a une frontière entre vous et l'Union européenne, même si après, il y a des traités de libre-échange qui permettent de laisser passer les marchandises, d'avoir des documents douaniers faciles à maîtriser, etc. Tout ça est vrai. Mais la notion de frontière, elle est vitale. Si vous êtes un ensemble fermé, un État qui s'appelle le Royaume-Uni quitte cet ensemble fermé, il y a une frontière quelque part. Alors, pour la France, c'est facile. On dit, ben, c'est à Calais, c'est au milieu du Channel. Hein. Il y aura une frontière quelque part. Et à Calais, à Dunkerque ou à Boulogne, il y aura un poste de douane. Et puis, on passera dans un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne. Là, c'est très facile. Quand on fait ça dans la chair irlandaise, avec toutes les souffrances dans les mémoires et dans les familles et dans l'histoire de l'Irlande, on joue un jeu très très dangereux. C'est à ça que Mme May va être confrontée et on ne sait pas encore ce qui va se passer de ce point de vue-là, car là, effectivement, elle a touché, elle remet en cause d'abord toute sa négociation, puisqu'au fond, là, il y a un point essentiel qui n'est pas traité, parce qu'on ne peut pas dire qu'il y a une frontière, il n'y en a pas, ou il y en a une, ou il n'y en a pas, mais de toute façon, on ne peut pas jouer, on fait comme s'il y en avait une, on fait comme s'il n'y en avait pas une. Physiquement, c'est tout à fait impossible politiquement de rétablir une frontière physique. Les Irlandais ne supporteront pas. Ils ne supporteront pas tout le mal qu'ils ont eu pour la faire disparaître, ils n'oublieront pas tout le mal qu'ils ont eu pour la faire disparaître. Et donc, on a là le véritable point d'achoppement de la question du Brexit. Il s'ajoute à ça, bien entendu, des contradictions au sein du Royaume-Uni, cette contradiction entre la partie nord de l'Irlande, mais qu'on retrouve à un degré moindre, parce que la tension est moins forte et il y a eu moins de sang versé, entre l'Écosse, qui voudrait rester dans l'Union européenne et qui ne veut pas donc faire partie du Brexit. Le Pays de Galles s'exprime moins sur ces questions-là. Donc on a une construction britannique, avec ce Royaume-Uni, cette Grande-Bretagne et tout, qui est en fait soumise à de très très fortes tensions. Tout ça dans les mains d'un gouvernement qui est assez faible, qui est désuni, puisque je vous dis, il n'y a pas moins de 7 ministres qui ont quitté le gouvernement de Mme May après l'annonce de l'accord et la confirmation de l'accord qui a eu lieu ce week-end à Bruxelles. Et donc, on a une situation de décomposition. Et ça me ramène à mon propos initial, c'est-à-dire que, vu de l'extérieur, les grands pays de l'Union européenne ne sont pas en très très bon état politique. Donc la France, je le disais, l'Italie, on le sait aussi, la Grande-Bretagne, on le sait aussi, et puis l'Allemagne qui est dans une situation un peu moins critique politiquement, encore que les échecs successifs de la CDU aux différentes élections régionales et l'écroulement du Parti social-démocrate fassent la preuve que la coalition au pouvoir n'a peut-être pas beaucoup d'avenir et que les équilibres politiques sont menacés. Et tout ça s'inscrit donc dans une crise générale qui, par ailleurs, depuis la crise économique de 2008, il ne faut jamais oublier de le rappeler, fait que l'Europe bricole, j'allais dire, en termes de croissance économique, avec des taux de croissance nuls ou très très faibles. Donc c'est installé dans une crise économique et donc qui a sa traduction politique, dont on ne voit pas l'issue. En y ajoutant à ça les stupidités des sanctions décrétées contre la Russie, maintenant contre l'Iran et tout, qui en fait ont fait plus de mal à l'Europe qu'à ceux qui les ont initiées, je pense, aux États-Unis, tout ça dresse un panorama assez sombre de la situation européenne et de notre pays qui s'y trouve. Pour autant, ça ne doit pas cacher la dimension proprement nationale des événements qui se passent ici. Et c'est là que je disais qu'on ne peut pas... On ne peut pas laisser de côté ce qui se passe en France et ce qui se passe ailleurs. Et je voudrais m'appuyer sur un document dont je vous recommande la lecture parce qu'il se trouve sur Internet, mais qui est établi par un professeur d'économie politique de l'université qui s'appelle Claude Rocher et qui fait un point sur l'explosion des impôts sur les ménages depuis 2008, donc début de la fameuse crise économique, par les chiffres. Alors là, c'est tout à fait clair. Puisque les masses salariales ont augmenté en 9 ans de 15%. Bon, on peut dire tant mieux, c'est déjà 15%. Ça veut dire donc les salaires, la masse salariale, les salaires versés aussi bien par l'État que par le privé ont augmenté de 15%. Mais dans le même temps, les taxes locales ont augmenté de 17 milliards, c'est-à-dire d'un pourcentage très très important. Les taxes locales, c'est ce qui alimente les budgets des communes, des départements et des régions. Vous les connaissez. Les impôts sur le revenu ont augmenté de façon assez importante, à peu près 40% dans les deux dernières années. La CSG, vous le savez tous, a augmenté beaucoup depuis 2009. Hein, en gros, 25% d'augmentation dans les recettes de CSG. La TVA a augmenté aussi. Et donc, en gros, sans aller dans le détail des calculs, mais la pression fiscale sur les ménages depuis 2009 a augmenté de 65 milliards d'euros. Alors ça, ben, tout le monde l'a senti. Enfin, vous payez des impôts ici ou là. Alors la TVA, tout le monde la paye. Hein, vous achetez une baguette de pain, il y a la TVA dessus. Donc c'est l'impôt auquel on n'échappe pas. L'impôt sur le revenu, tout le monde ne le paye pas. C'est vrai, mais beaucoup, pas mal de gens la payent. Ensuite, les taxes locales, qu'ils soient taxes d'habitation, taxes foncières, choses comme ça, beaucoup de gens les payent et chacun sait qu'elles ont augmenté. La CSG, pratiquement tout le monde la paye et ça a augmenté aussi. Donc vous avez affaire à un pays où la pression fiscale a énormément augmenté depuis 2008, donc depuis la crise économique. Tout ça sous fond de difficultés économiques et de non-croissance. C'est-à-dire qu'on a demandé aux ménages, aux contribuables, donc les ménages, comme on dit dans la statistique, de donner beaucoup plus d'argent pour des activités qui sont discutables, puisqu'au fond, le budget de l'État a diminué dans beaucoup de secteurs, ça tout le monde le sait, secteur hospitalier, secteur de la santé en général, secteur des couvertures sociales, et puis secteur de l'éducation. Mais dans le même temps, des budgets ont augmenté, même si il y a des cris d'orfraie qui sont poussés ici et là par les animaux, la bureau et les généraux. Le budget de la défense a augmenté, le budget de la gendarmerie a augmenté, le budget de la police a augmenté, le budget du ministère de l'Intérieur aussi. Tout ça fait que l'État continue à mener grande vie et qu'il continue à payer des personnels discutables, des benalas et quantité d'autres qu'on ne connaît pas, lui on le connaît, à des prix assez élevés pour des tâches discutables dans le cadre d'une république. Tout ça pour dire, et vous allez me voir venir, tout ça pour dire que dès l'instant où chacun a ressenti depuis 10 ans, c'est pas un phénomène de cette année ou de l'année dernière, c'était commencé sous Sarkozy, ça a été poursuivi sous Hollande et tout, la pression fiscale s'est accrue sur la totalité des ménages, et donc il y a un moment où cette pression fiscale devient difficile à supporter. Alors elle devient difficile, soit physiquement, c'est-à-dire qu'il y a un moment où effectivement la fin du mois est dure, hein, soit elle devient difficile psychologiquement, et les deux peuvent se mélanger, c'est-à-dire que psychologiquement elle devient difficile parce que les personnes qui payent plus d'impôts, et qui le voient, les chiffres on peut les comparer d'une année sur l'autre, les personnes qui payent plus d'impôts disent en même temps je paye plus d'impôts, et les écoles ferment, et les tribunaux ferment, et les hôpitaux n'ont plus de personnel, il n'y a plus d'infirmiers, ou il n'y a plus assez, etc. Et donc on se dit à quoi sert l'impôt ? Et donc c'est à partir de ce moment-là, quand on se met à poser cette question qui est centrale et qui est normale que tout citoyen se pose, à quoi sert l'impôt alors que je ne vois pas le résultat de ce que j'ai donné ? Ça veut dire qu'on se met à douter de l'utilité et de l'intelligence de cet effort fiscal. Autre chose serait de dire, il y a un grand projet, un grand programme qui profitera à tout le monde, etc. C'est pas du tout ça. Parce que dans le même temps où il y a cet effort qui est demandé à tout le monde avec des résultats qui ne sont pas très visibles, on a des Carlos Ghosn, on a des dirigeants de ci et là qui gagnent des sommes considérables avec la bénédiction de l'État. Je rappelle que la Renault est pour actionnaire à 15% de son capital l'État. C'est-à-dire que le salaire versé à M. Carlos Ghosn par Renault est cautionné par l'État. C'est-à-dire, l'État a dit oui, car l'administrateur représentant l'État au conseil d'administration de Renault s'il disait « c'est pas possible, mais vous vous rendez compte, on ne peut pas payer un PDG à ce prix-là », Renault obéirait. Or, ce monsieur qui représente l'État, je ne sais pas qui c'est, il y en a toujours un de toute façon, n'a jamais rien dit. Donc il est complice, l'État est complice dans le même temps où il ferme des hôpitaux, où il ferme des écoles, où il paye mal ses fonctionnaires, etc. L'État est complice du salaire de Carlos Ghosn. C'est ça qu'il faut dire. Hein ? Et alors, en plus, je m'arrête un peu sur la question de ces PDG trop payés, parce qu'il faut réfléchir humainement. Pour qu'un monsieur gagne, je ne sais pas combien de fois plus qu'un autre, il faudrait qu'il ait des qualités exceptionnelles. C'est-à-dire, ce serait Einstein, c'est-à-dire un QI de 250. Ça n'existe pas. Ces gens-là ne sont là que parce que, d'une part, ils taillent dans le vif, c'est-à-dire sont des tueurs de coups, c'est-à-dire des tueurs d'effectifs, des licencieurs de masse, etc. Et ils ne font pas ça tout seuls. Donc, leur donner ce salaire-là pour ce type de travail, ce n'est pas mérité et ce n'est pas leur capacité. Carlos Ghosn n'est pas un génie, c'est un tueur. C'est un tueur. C'est un tueur d'emploi, c'est un tueur d'espoir, c'est un tueur de tout ce qu'on peut imaginer, c'est un tueur de famille, combien de suicides chez Renault, etc. Donc, payer à ce prix-là un tueur, c'est déshonorer la République. Je le dis pour le représentant de l'État au conseil d'administration de la société Renault, vous avez donné de l'argent à un tueur. Et vous le saviez, et vous le connaissiez. Et vous étiez content parce que après, il va aussi aller tuer des Japonais. Alors c'est peut-être ça que les Japonais n'apprécient pas, on en saura un peu plus si l'enquête avance. Mais c'est de ça qu'il faut réfléchir. Il n'y a pas une capacité intellectuelle dans un personnage comme ce PDG de Renault qui en fasse une lumière, que ce soit une intelligence du siècle qui ait tout compris dans l'industrie automobile. Non, non, c'est simplement un tueur de salaire, un tueur de coûts, un monsieur qui fait des économies sur tout et qui piétine la totalité de son personnel à l'exception de petits groupes qui travaillent autour de lui. Pour le reste, il terrorise parce que tous ont peur. Voilà ce qu'il y a et ça se retrouve en permanence. Je vais vous donner deux exemples récents. Il y a une nouvelle secrétaire d'État à l'économie qui vient d'être nommée, qui s'appelle Agnès Pannier-Runacher. Bon, alors, même chose, elle a fait des belles études, les mêmes que Emmanuel Macron, à peu près la même génération et tout. Alors elle a d'abord travaillé pour l'État, puisqu'elle avait fait l'ENA, et puis ensuite elle est passée chez un équipementier automobile qui s'appelle Faurecia, et puis ensuite dans une compagnie qui s'appelle la Compagnie des Alpes, vous ne connaissez pas beaucoup, parce que c'est une compagnie financière, mais c'est une personne qui a 40 ans et qui gagne 500 000 euros par an. Voilà. Et donc ça c'est une décision qui a été prise, donc un haut fonctionnaire qui a été formé aux frais de la nation, par l'École nationale d'administration, après Sciences Po, tout ça aux frais de la nation, et qui un jour, parce qu'elle rentre dans une boîte qui va faire aussi qui va être un tueur de salaire, un tueur de salariés, etc., va toucher 500 000 euros par an. Et ça devient secrétaire d'État. Donc en plus, quand elle aura quitté ce poste, elle aura probablement des postes de direction dans des boîtes encore plus grosses. C'est-à-dire qu'elle gagnera plus. Bon, c'est ça qui ne va pas. C'est ça qui ne va pas. Donc on peut ironiser sur les gilets jaunes. Alors ils s'expriment peut-être pas tous. Ils n'ont pas tous fait l'ENA. Ça n'a pas d'importance. Mais simplement, ils disent... Ça va pas. Ça va pas parce que ceux qui gouvernent s'en mettent plein les poches, ne vivent qu'avec leurs copains, n'admirent que ceux qui tuent l'emploi et qui découragent les salariés. Ça ne va pas. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça que le pouvoir n'a pas encore compris, mais il faudra le temps que ça vienne. Alors, chacun fait ce qu'il veut, met un gilet jaune, met pas de gilet jaune. De toute façon, le fondement du mouvement de révolte qui est commencé est là, je l'ai décrit, par la politique fiscale, par la politique de mépris de classe qui est pratiquée par Macron, mais qui était déjà pratiquée par Hollande et par Sarkozy. Tout est mûr. Alors après, quel cours ça va prendre? Chacun de vous décidera de la façon dont il va s'habiller, de la couleur qu'il va mettre. Mais de toute façon, les motifs de la révolte sont tous présents. Que, à bon entendeur, salut. Voilà ce que je voulais dire. Et puis je vais passer sur une action de la République française toute récente et qui touche non pas un ami, mais une personne que je connais et qu'on a déjà eu l'occasion d'entendre dans les émissions de Comaguerre sur Radio Galère. Il s'agit du président de l'association d'amitié franco-coréenne. Il s'appelle Benoît Kennedy. Alors on l'a entendu, c'était je crois fin 2016. On avait fait une grande soirée consacrée à la Corée et on l'avait entendu à ce micro. Benoît Kennedy, il se trouve que lui aussi, c'est un bon étudiant, il a fait l'ENA et il est en poste au Sénat. Alors il n'est pas sénateur, il y a des salariés qui organisent la vie quotidienne du Sénat et il est chargé du bureau de l'architecture. Alors je ne sais pas exactement ce que fait le bureau de l'architecture au Sénat, mais il doit s'occuper de l'entretien des bâtiments, c'est un monument historique, le Sénat, etc. Bon. Donc il a un poste technique parce qu'il y a de l'argent, il y a un budget pour entretenir les bâtiments et donc il passe des contrats, il s'occupe de la gestion de ce budget. Bon, il fait son entrailles de haut fonctionnaire, un poste qui ne fait pas partie des postes glorieux de la haute fonction publique, mais il fait son boulot pour lequel il a été formé et pour lequel il est payé. Alors lui, ce n'est pas du 500 000 euros par an, c'est les échelles supérieures de la fonction publique, mais ça ne va pas même pas à 10 000 euros par mois. Benoît Kennedy avait avantage, disons, qu'il était en même temps intéressé par la grande politique et qu'il est président de l'Association d'amitié franco-coréenne. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Association d'amitié franco-coréenne ? C'est une association. Alors, il en existe des quantités de ce genre-là. Il y a beaucoup de députés, qui, par exemple, ou beaucoup d'hommes politiques qui sont présidents d'une association d'amitié vis-à-vis de tel pays, parce que soit ils le connaissent, soit ils entretiennent des liens chaleureux, ils aiment bien ce pays. Et puis, ça fait partie des relations internationales au niveau non étatique qui facilitent les contacts, qui permettent de faire connaître un pays tranquillement sans l'imposer dans le jeu diplomatique obligatoirement, mais d'avoir des relations de voisinage avec tel ou tel pays. Cette association d'amitié franco-coréenne, elle a cette particularité qu'il y a, et ce n'est pas la volonté des Coréens, deux Corées. Et l'association d'amitié franco-coréenne se préoccupe autant de faire connaître la Corée du Sud que la Corée du Nord. Alors la Corée du Sud, parce qu'elle en parle, on la connaît mieux, parce qu'elle a d'abord des rapports diplomatiques avec la République française, mais aussi on la connaît bien parce que cette association d'amitié franco-coréenne, à l'occasion, va défendre des militants des droits de l'homme qui sont réprimés en Corée du Sud. Je le dis parce que la Corée du Sud a longtemps été d'abord une dictature militaire. Ça, on ne l'a pas trop dit, mais c'était vrai. Ça s'est transformé dans le courant des années 2000, progressivement. Ça reste quand même un régime assez dur, où la vie syndicale est difficile, où les libertés sont discutables. Tout n'est pas rose dans la Corée démocratique du Sud. Mais donc, à l'occasion, l'Association d'amitié franco-coréenne, qui se tient bien au courant de l'actualité là-bas en Corée du Sud, soutient des mouvements pour la défense des droits de l'homme ou sur tel ou tel sujet. Et puis aussi, elle s'occupe de faire connaître la Corée du Nord sur la base de documents existants, sur la base de contacts, de documents qu'elle reçoit, de délégations qui sont accueillies ici et là, tout en sachant que pour la République française, la République populaire démocratique de Corée, c'est le titre officiel de la Corée du Nord, n'est pas reconnue diplomatiquement. Mais ce qu'il y a derrière cette association d'amitié franco-coréenne, c'est un souci qui est partagé par beaucoup de Coréens, au nord et au sud, et de plus en plus nombreux, pour la réunification de leur pays. Alors, ce n'est pas une association d'amitié qui va réussir la réunification du pays. Elle peut simplement elle se situe dans un climat favorable, créer des conditions pratiques, concrètes, pour que cette réunification ait lieu. Et cette réunification, et là-dessus, je soutiens totalement l'activité de cette association d'amitié franco-coréenne, elle est souhaitée par une grande majorité des Coréens, et elle est éminemment souhaitable, parce que le pays qu'on appelle la Corée, le pays est divisé donc par une décision de l'impérialisme américain qui date donc de la guerre de Corée et de son issue en 1953. Et donc on a aujourd'hui deux pays coréens parlant la Corée avec une culture commune, avec une langue commune, avec une histoire commune et une longue histoire et riche. On a deux pays séparés par la volonté donc de l'impérialisme américain qui veut donc garder sous sa botte la Corée du Sud et détruire, puisqu'il a commencé à le faire dans de larges proportions pendant la guerre de Corée, l'autre pays qui s'appelle la République populaire démocratique de Corée. Il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, mais en même temps, il veut pas reconnaître qu'il n'y arrive pas, et il maintient une situation, je l'ai déjà dit, mais que le rapport entre les deux Corées actuelles, les deux Corées réellement existantes, quoi qu'on veuille, est uniquement un traité d'armistice, un armistice qui a eu lieu donc en 1953, au terme duquel la guerre de Corée s'est achevée, et au terme duquel la conséquence est comme il s'agit que d'un armistice, donc ça veut dire un armistice, ça peut être violé du jour au lendemain, au terme duquel l'armée des États-Unis d'Amérique a 30 000 soldats, entre 30 et 35 000 soldats, sur le sol de la République de Corée du Sud, avec tous les canons pointés sur la Corée du Nord. Alors quand on est coréen du Nord, et même coréen du Sud, on se dit, moi j'en ai assez de vivre, ça fait donc un demi-siècle que ça dure, avec des canons pointés sur moi, et la menace d'envahissement, parce que je ne suis pas conforme au niveau de mon organisation politique, je ne suis pas comme les États-Unis voudraient que je sois, ils voudraient en fait que je ne sois plus, puisqu'ils ont raté leur coup de pas beaucoup, mais quand même d'un peu. À la fin de la guerre de Corée, les États-Unis avaient tué 30% de la population de la Corée du Nord. Alors, ça paraît comme ça un chiffre journalistique et tout. Imaginez en France aujourd'hui un agresseur étranger qui tuerait 30% de la population. Ça fait 18 millions de morts à l'échelle française d'aujourd'hui. C'est ça qui est dans les mémoires des Coréens. Hein, tous ne sont pas à maman, tous ceux qui étaient là en 1953, ou de leurs enfants. Il y a cette puissance militaire des États-Unis qui est là et qui a derrière elle donc cette lourde charge de sang, un tiers de la population assassinée par l'armée des États-Unis dans cette campagne folle à laquelle il n'a manqué, peut-être par miracle, qu'un bombardement nucléaire. Mais enfin, le résultat était quasiment le même. Le pays était totalement détruit au moment de l'armistice de 1953. Voilà, en gros, je vais très très vite, mais ce à quoi se consacrait cette association, elle se consacre toujours, l'association d'amitié franco-coréenne, donc faire connaître ces deux pays, faciliter la réunification de la Corée et de son peuple, et son président s'appelait Benoît Kennedy. Et bien, depuis dimanche soir, Benoît Kennedy est en garde à vue. Il a été donc interpellé par la direction générale des services de la DGSI, donc de complicité, d'espionnage en faveur d'un pays étranger, donc espionnage en faveur de la République populaire démocratique de Corée. Alors, bien entendu, c'est grotesque et ridicule, puisque de toute façon, dans son poste de responsable de l'architecture au Sénat, j'imagine pas qu'il avait affaire à beaucoup de secrets diplomatiques sur la Corée du Nord. Mais ce qui est significatif, c'est que de cette façon, le gouvernement français et les services du gouvernement français, les services d'espionnage donc, essayent de faire taire une voix et une association qui jouait en faveur de la paix et de la pacification de la péninsule coréenne. Ça en dit très très long, pour ça, s'en prendre à un personnage de ce genre-là, ça en dit très très long sur la volonté donc de l'Élysée, du gouvernement de la République française actuelle, de faire quoi que ce soit qui puisse aller dans le sens de la détente internationale. C'est tout à fait clair, et c'est une preuve supplémentaire que ce gouvernement ne veut pas la paix, il veut au contraire mettre le feu partout où il peut encore être mis et le rallumer s'il était en train de s'éteindre, ce qui était dans le cas pour la Corée. On voyait à l'évolution à la fois de la politique de Pyongyang et surtout l'évolution de la politique de l'actuel président ou premier ministre plutôt de la Corée du Sud, que la volonté populaire coréenne de la réunification avançait à très très grands pas. Ce geste contre Benoît Kennedy montre que la République française ne veut pas que les Coréens soient libres chez eux et sans une occupation militaire étrangère. Ça en dit très très long sur ce qu'est ce gouvernement, mais on aura d'autres occasions d'en parler. Alors Benoît Kennedy est en garde à vue, il peut y rester un certain nombre de jours. Son bureau, bien entendu, au Sénat a été fouillé et j'imagine qu'il est assez intelligent pour avoir laissé, pour les services, enfin je plaisante, mais pour avoir laissé toutes les preuves qu'il avait des secrets militaires de la République de Corée du Nord dans son bureau et qui volait des documents dans les autres bureaux du Sénat. Bon, c'est complètement stupide, mais c'est un signe politique qui ne trompe pas. Donc tout le soutien de Comaguerre à Benoît Kennedy, simplement c'est un signe supplémentaire que ce gouvernement français est un gouvernement de faiseurs de guerre qui... Alors, en fait, je l'ai pas dit tout à l'heure au moment des budgets militaires, mais il faut savoir que la décision pour étudier le deuxième porte-avions remplaçant le Charles de Gaulle a été prise. Donc c'est déjà quelques 500 ou 600 millions d'euros qui vont être mis sur la table simplement pour les études préalables. Et ça veut dire que la France est aujourd'hui, avec son équipe dirigeante, dans l'incapacité de s'imaginer sans un porte-avions, c'est-à-dire dans l'incapacité de s'imaginer n'allant pas au large de la côte de je ne sais quel pays, qu'il soit en Afrique, en Amérique latine et tout, pour dire « je suis le plus fort ». Et c'est de ça qu'il faudra un jour sortir. C'est-à-dire que qu'est-ce que la France, plutôt le peuple français, a à attendre d'un deuxième porte-avions ? Rien du tout, rien du tout. Par contre, ça peut profiter à certains intérêts, à tel Bolloré, à tel Bouygues, etc., qui va dire on défend les intérêts français. Non, l'armée française, aujourd'hui, passe plus de temps à défendre les intérêts des entreprises françaises que les intérêts du peuple français. C'est là-dessus qu'il faudra faire la différence, mais je pense que la réflexion est en cours. On va passer une petite musique pour faire un petit peu de... On va passer la deuxième, celle qui s'appelle « Don't touch us »,« Ne nous touchez pas ».
Ветер по полю гуляя, по дороге пыль метет. Это наша удалая, удалая конница идет. Нас не трогай, мы не тронем, а затронем пусть не давим. И в огне мы не утонем, и в огне мы не сгорим.
Эй, и в огне мы не утонем, и в огне мы не сгорим.
Кони боевые запустили у дела, ведь врагов нам не впервые, были будут полные дела. Нас не трогай,
мы не тронем,
а затронем, пусть не дадим.
Voilà, on n'écoute pas tout, parce que de toute façon, c'est en russe, donc beaucoup d'entre vous ne comprennent pas le russe, pas plus que moi d'ailleurs, mais c'est une chanson qui était chantée en 1938 en URSS, qui dit « Ne nous touche pas ». Alors, ils voyaient effectivement venir ce qui allait les toucher, parce que c'était simplement écrit, hein, dans les écrits d'Hitler, il était écrit que les Slaves devaient être remis en esclavage comme ils n'auraient jamais dû cesser de l'être, et donc la direction soviétique et le peuple soviétique, le peuple russe, savaient très bien que, de toute façon, ils allaient avoir droit à une agression. Et c'est là qu'il disait « ne nous touche pas ». Or, bien entendu, il a essayé, les nazis ont essayé de les toucher, avec les résultats que l'on sait. Mais c'était pour vous parler d'un début de crise organisée. Alors, c'est un nouvel épisode de crise en Crimée. Ça s'est passé ces derniers jours. Donc je rappelle la situation. Donc la Crimée, le peuple de Crimée, par un référendum, vote à 16% ou 17% pour le rattachement à la Fédération de Russie. La Fédération de Russie, ça fait partie des statuts de la Fédération de Russie, et le Parlement russe accepte l'entrée du nouveau venu qui a frappé à la porte. Donc les conditions démocratiques sont tout à fait réunies. Et donc depuis 2000, je ne sais plus quelle année, bon, la Crimée fait partie de la Fédération de Russie. Il se trouve que la Crimée donc est une partie isolée, vous l'avez au fond de la mer Noire, qui n'a pas de lien physique direct avec le territoire de la Fédération de Russie. Alors ce lien manquait, effectivement, il y avait des liaisons par voie d'eau, puisque là, quand on est en Crimée, il y a une petite annexe de la mer Noire qui s'appelle la mer d'Azov, qui permet d'aboutir tout au fond, donc, et sur la rive ouest-est de cette mer d'Azov, à la côte russe. Et puis la côte côté ouest est encore ukrainienne. Ce qui s'est passé, c'est que dans le courant de cette année, j'en ai déjà parlé à l'antenne, la Russie a ouvert un pont de 17 km, qui est un énorme ouvrage d'art, qui permet de franchir le détroit de Kerch. Et donc aujourd'hui, et donc depuis le milieu de cette année 2018, des camions, des voitures et même maintenant des trains peuvent aller directement du territoire de la Fédération russe, donc depuis l'est du détroit de Kerch, jusqu'à la Crimée, la péninsule de Crimée, à l'ouest du détroit de Kerch. Pont de 17 km avec donc un passage au milieu pour les navires. Or, il se trouve que ce passage des navires est régi et la Russie accepte tout à fait et respecte les règles du jeu qui sont fixées par les conventions internationales, c'est-à-dire que tout passage dans les eaux territoriales russes, puisque maintenant les deux côtés du détroit de Kerch sont russes, tout passage est libre pour la navigation commerciale. C'est le respect de la Convention sur le droit de la mer, et que par contre, le passage d'unités militaires doit être soumis à un accord. C'est-à-dire qu'un navire prenons un exemple au hasard, pas tout à fait, de l'OTAN qui veut rentrer en mer d'Azov, doit demander l'accord de la Fédération russe pour passer le détroit de Kerch, pour passer dans les eaux territoriales russes. Bon. Alors ça, ça ne plaît évidemment pas. Et ça plaît tellement peu qu'il y a une provocation qui vient d'être montée donc par le président ukrainien, l'oligarque Porochenko, qui, je le précise parce que ça fait partie du contexte, est soumis à réélection au printemps de 2019 et qui, bien entendu, dans le cadre de sa campagne électorale, est en train de rouler des mécaniques. Et la seule façon qu'il a de mobiliser une partie de l'opinion ukrainienne pour être réélu et continuer sa politique, c'est de faire du patriotisme étroit et de l'anti-russisme de base, parce que par ailleurs il n'a aucun argument dans la vie économique et sociale en faveur de la politique qu'il a menée. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une dizaine de millions d'Ukrainiens qui ont fui leur pays, on y est mal nourri, les usines y ferment, les prix y montent, et il est question que beaucoup aient des difficultés pour se chauffer, puisqu'il y a un problème de tarif du gaz pour le chauffage. Le gaz était le moyen de chauffage le plus répandu sur le territoire ukrainien, mais il est vendu à des tels prix que aujourd'hui les gens ont le choix soit de payer, soit de mourir de froid, et soit de payer. De toute façon, s'ils payent le gaz, ils ne pourront plus payer le reste. Bon. Alors, ce n'est pas généralisé dans toute l'Ukraine, mais c'est en train de prendre forme. Et c'est d'autant plus en train de prendre forme que les températures moyennes sur une partie du territoire ukrainien maintenant sont descendues en dessous de zéro jour et nuit. Bon, donc, Porochenko, pour faire simple, n'a aucun moyen de faire croire à ses électeurs qu'il leur veut du bien. Bon, donc, il tente un dérivatif en disant « tout le mal vient de la Fédération russe, faisons dans l'antirussisme ». Et donc, il monte une provocation. La provocation est toute simple. Il fait arriver donc dans le détroit de Kerch, donc depuis les eaux internationales, donc de la mer Noire, il fait rentrer donc deux petits bateaux de guerre, de patrouilleurs, enfin tout petits bateaux, et un remorqueur, et il le fait sans demander l'autorisation à la Fédération de Russie. Et donc là, il y a une violation du droit international, c'est-à-dire il y a deux petits bateaux de guerre et ce remorqueur, alors c'est une toute petite unité, on appelle ça des patrouilleurs côtiers dans les marines militaires en général, mais toujours est-il qu'il y a une violation délibérée de la règle du jeu qui est établie et qui est respectée par la Fédération russe. Alors là-dessus, bon, la marine russe s'approche des délinquants et leur dit de s'écarter, ce qu'ils ne font pas. Alors, il y a eu quelques tirs échangés. Les bateaux, donc les petits bateaux ukrainiens, ont été arraisonnés. Et on a là le point de départ d'une crise internationale calculée, majeure, un bruit considérable sur tous les réseaux, etc. La Russie a encore fait un coup. Alors, la Russie a fait au coup. C'est exactement l'inverse. C'est Porochenko, l'Ukraine, qui a tenté une diversion parce que sa politique intérieure est catastrophique, parce qu'il ne respecte aucun des engagements, parce qu'il sait bien que les deux républiques du Donbass n'ont plus du tout envie de rentrer dans une Ukraine telle qu'il l'a conduit et telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Et donc, en fait, il s'agit de détourner l'attention sur un échec catastrophique de la politique totale de l'Occident dans cette partie du monde. Alors, je dis totale de l'Occident parce que j'implique très clairement la France, qui a fait partie des plus actifs, des belligérants, l'Allemagne, c'est tout à fait clair, et tirant les ficelles par derrière, les États-Unis, qui voulaient voir tomber l'Ukraine dans le camp de l'OTAN. Alors maintenant, ils n'en parlent plus parce qu'ils se rendent compte que l'Ukraine est dans un tel état de délabrement matériel, infrastructurel, et j'allais même probablement dire psychologique au niveau de ses couches dirigeantes, que les faire entrer dans l'OTAN, c'est prendre des risques qu'ils n'ont pas envie de prendre, et puis peut-être à un coût qui serait extrêmement élevé. Bon. Donc on a cette fabrication d'une crise internationale à partir de rien du tout. Il y a deux petits bateaux, un remorqueur, enfin une crise minuscule qui est destinée à nouveau à montrer, à tort bien entendu, que la Russie cherche la bagarre, alors qu'au fond, c'est l'Occident et Porochenko derrière qui fait monter la température dans cette zone-là du monde. Alors on en reparlera probablement parce que, à part ça, je veux dire, la dictature, enfin le pouvoir excessif de Porochenko sur l'Ukraine est très très faible. Le pays est en très très mauvais état et il n'y a pas grand-chose pour le sauver. si ce n'est des comédies du genre de celle qui a été montée ces derniers jours dans le détroit de Kerch. Alors, ça va s'arrêter là pour l'instant, puisqu'au fond, la Russie a mis en travers du passage, il y a un passage maritime sous un grand pont, sous un énorme viaduc, ils ont mis en travers un petit pétrolier, et donc on ne passe plus. Donc toute nouvelle provocation sera une perte de temps inutile. Et puis, chaque navire qui voudra tenter le passage devra être dans les règles. C'est un navire civil qui voudra alimenter, par exemple, le port ukrainien de Mariupol, qui est sur la rive occidentale de la mer d'Azov, pourra le faire à condition de prévenir qu'il passe et on lui laissera le passage. Mais on en est là des tensions organisées et la République française, malheureusement, joue dans le camp des faiseurs de désordre. Bien entendu, il y a d'autres sujets sur lesquels je vais un peu m'arrêter. Il s'est tenu ces derniers jours à Palerme donc ville principale de Sicile, une conférence sur l'avenir de la Libye. Alors là aussi, c'est très intéressant d'en parler. La Libye, j'insiste pas là-dessus, tout le monde sait, grand chaos total depuis donc la chute du régime la Jamaria libyenne, depuis l'assassinat par les puissances occidentales de Muammar Kadhafi. Et on essaye donc de faire redémarrer un pays unitaire. Est-ce qu'on peut l'unifier ? Est-ce que ça va être plusieurs pays, un seul et tout ? Alors, les Libyens voudraient bien pouvoir s'exprimer, mais ils n'ont pas beaucoup l'occasion de le faire. Et en fait, pour l'instant, il y a deux centres de pouvoir en Libye. Alors, ces deux centres de pouvoir sont en désaccord à peu près sur tout. Ils contrôlent chacun une partie du pays. Ils sont eux-mêmes un peu dépendants de différentes milices armées qui les soutiennent et qui leur permettent d'avancer, de défendre leurs intérêts ici et là. Alors, je veux parler d'un côté du maréchal Haftar, donc c'est le gouvernement de Tobrouk, et de l'autre côté, donc le gouvernement de Tripoli, M. Al-Sarraj, qui lui est reconnu par l'Occident, mais ça vaut ce que ça vaut. Alors, ils viennent, ils se serrent la main, on les voit se dire bonjour devant les photographes. Et puis ça s'arrête là. En fait, la conférence, d'après ce qu'on sait, est un échec. C'est-à-dire, pour l'instant, aucun des deux pouvoirs ne peut avancer. Et donc, la Libye risque de rester comme ça dès l'instant où il n'y aura pas clairement un vainqueur dans ce partage du pouvoir. Et dès l'instant où le pouvoir pourra être réellement exercé par un gouvernement sans que celui-ci soit dépendant des milices armées qui foisonnent. Alors, elles foisonnent parce qu'elles ont été mises en place pour la guerre contre le régime de Muammar Kadhafi. Et elles sont toujours là. Elles ont toujours de l'argent des uns et des autres, en particulier des monarchies du Golfe. À propos de monarchies du Golfe, alors là aussi, il faudrait s'arrêter quelques instants. On ne vous a peut-être pas beaucoup parlé des attaques au gaz contre Alep. Alors, parce qu'il y a une époque, rappelez-vous, où les attaques au gaz étaient alors à la une de tous les journaux télévisés, de tous les journaux radiophoniques, c'était Bachar el-Assad qui gazait sa population. Bon, ça, on ne le dit plus parce que ce n'est plus ça. D'abord, ça n'a pas été ça, puis ça a été reconnu après que ce n'était pas ça. Mais maintenant, on en parle moins parce que c'est les fameux rebelles armés et soutenus par les monarchies du Golfe et par la France, par la Grande-Bretagne et par les États-Unis. C'est eux qui envoient des obus au gaz sur Alep. Alors, Alep avait repris une vie presque normale. C'était reconstruit, les usines redémarraient. Il y avait une vie, c'est une grande ville industrielle très active, Alep. Et puis, depuis quelques jours, ils reçoivent des obus au chlore, alors qu'ils ne font pas des morts, mais beaucoup de blessés, et ces obus qui sont tirés par les rebelles de la région d'Idleb. Et là, bien entendu, alors on ne va pas se scandaliser, parce que de toute façon, tous ceux qui veulent savoir savent que ce gaz au chlore arrive depuis des stocks de pays occidentaux. À l'occasion, quand l'armée arabe syrienne reprend le contrôle de certains quartiers, de certaines villes, ils trouvent les fournitures venant de différents pays, Allemagne, Angleterre, France, etc. Donc il n'y a aucune illusion sur la provenance de ces armes au chlore. Simplement, on n'en fera pas tant de bruit, puisque là, c'est les rebelles qui sont les amis de l'Occident qui envoient du gaz au chlore sur les banlieues d'Alep. Alors ça va forcément avoir une fin. D'abord, la première riposte, elle est très simple, c'est-à-dire que dans la journée qui a suivi ces expéditions, ces envois plutôt d'obus au chlore sur certains quartiers d'Alep, l'aviation russe est allée bombarder les zones d'où étaient partis ces obus au chlore. Et puis on approche du moment où, bien entendu, alors il y aura toute une gesticulation, on va monter au créneau dans toutes les rédactions, mais on vient arriver le moment où il faudra vider la poche d'Idleb, où sont réfugiés plusieurs dizaines de combattants djihadistes qui annoncent d'ailleurs s'être tous mis d'accord pour résister. Donc ça veut dire que désormais les choses sont parfaitement claires, elles doivent être claires aussi bien pour M. Erdogan que pour le gouvernement syrien, que pour tous les gouvernements qui s'intéressent à la situation dans le pays. Désormais, la poche d'Idleb est une zone donc, qui ne veut pas la fin de la guerre, et donc pour finir la guerre, il faut liquider cette poche. La seule issue pour que ce ne soit pas avec la mort de tous les combattants, que ce ne soit pas un bombardement féroce, parce qu'il y aura malheureusement, et il y a malheureusement des habitants civils qui sont placés dans cette ville d'Idleb, qui y vivaient. Mais il est évident qu'on approche du moment décisif, que ce moment décisif est probablement nécessaire, parce qu'autrement, la situation va être maintenue comme ça, avec ces quelques dizaines de milliers d'hommes très bien armés, très bien financés, ça continue à l'être, qui ne sont pas admis parce que, en fait, Erdogan les soutient mais ne veut pas qu'ils soient dans son pays, donc ils sont très très bien en Syrie. Donc la volonté de maintenir cet abcès existe à Washington, à Londres, à Paris certainement. Elle existe de fait à Ankara et en fait, il va bien falloir en sortir. Alors je pense qu'on approche maintenant parce qu'il est clair que l'unification des rebelles et les nouvelles attaques donc, au gaz contre certains quartiers d'Alep montrent qu'il va bien falloir en arriver à une solution définitive qui ne peut être, à mon sens, que militaire puisque les tentatives, donc les accords d'Astana, ensuite les accords d'Istanbul n'ont pas donné toutes les suites nécessaires. Il faudra bien arriver à finir cette guerre, ce que beaucoup de gens souhaitent. Dernière chose avant, oui, je profite des derniers instants, ça serait presque une bonne nouvelle, petite mais pour l'avenir. Il se passe que la République populaire de Chine a décidé, alors tenez-vous bien, de faire ouvrir une voie ferrée et de faire circuler des trains entre le Tibet et le Népal. Alors, extraordinaire. Alors, passer entre le Tibet et le Népal, ça veut dire passer sous la chaîne de l'Himalaya, à peu près au niveau de l'Everest. Bon, passer dessous, bien entendu. Alors, là, les Chinois maîtrisent à peu près la technique pour ce genre d'activité maintenant. Mais c'est un basculement politique de grande importance, puisque ça veut dire que désormais, une fois que ce chemin de fer sera ouvert, mais les accords sont passés pour l'ouvrir, et les techniciens chinois, la technique chinoise est en capacité de le faire, et elle a les finances pour le faire. Dès l'instant où ce chemin de fer sera ouvert, le Népal sera ouvert sur la Chine et donc ne sera plus sous la dépendance physique, logistique, matérielle, concrète de l'Inde, puisque la géographie dicte la situation. C'est-à-dire que vous avez la chaîne de l'Himalaya, au nord le Tibet, au sud le Népal, et quand on est au Népal, il suffit de descendre doucement la pente, c'est assez haut le Népal, pour arriver en Inde. Et donc les relations sont beaucoup plus intenses et beaucoup plus faciles, il y a beaucoup plus de routes et beaucoup plus de circulation pour aller de l'Inde au Népal que du Népal à la Chine. L'arrivée du chemin de fer, la construction de ce chemin de fer, va bouleverser totalement cet équilibre et on en parlera du Népal comme d'un pays un peu plus indépendant qu'il ne l'est aujourd'hui. Voilà, je voulais en terminer là-dessus et pour vous rappeler pour finir donc la réunion sur la Venezuela qui aura lieu ce samedi à partir de 18h au Théâtre de la Comédie à Marseille, boulevard Jeanne d'Arc. Venez-y nombreux. Merci de votre attention. Merci Sidi. Thank you.